Il est 19h sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, la suite des débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec vous, Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Le plan d'Emmanuel Macron pour Marseille, le président promet un harcèlement policier du trafic de drogue, des moyens pour la police, la santé et l'éducation. Nous serons à Marseille dans un instant.
Deuxième rentrée des classes sous Covid, le mot d'ordre est à la vaccination des ados. Nouvel appel lancé par le chef de l'État sur Instagram et l'aération donc des salles de classe, surtout en primaire.
La tempête Ida a fait au moins 14 morts à New York et dans sa région. Des inondations records n'ont pas laissé le temps à la population de réagir. Nous serons sur place.
Ras-le-bol des pauses toilettes à répétition en plein match à l'US Open de tennis. Le grec Tsitsipas dans le viseur du public et des organisateurs pour une conduite jugée anti-sportive. La tendance météo, Marlène Durel.
Alors du beau temps au nord de la Loire demain et puis un temps instable et souvent orageux qui va se mettre en place dans les régions méridionales. Des précisions à la fin de ce journal. Europe 1.
Emmanuel Macron annonce donc en ce moment son plan pour Marseille.
Marseille en grand et une première urgence. Le chef de l'État a débuté ses annonces avec le volet sécuritaire. Il promet de harceler le trafic de drogue. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct de Marseille. Le président s'exprime en ce moment même. Stéphane, quelles sont les principales annonces ?
Mais écoutez, ces trois axes, ces trois urgences, comme vous les définissez vous-même, bien sûr, cette lutte contre le trafic, il a rappelé ce qu'il avait déjà promis hier soir au commissariat nord de Marseille, ses renforts humains, ses renforts matériels pour les forces de l'ordre, pour pilonner ces quartiers minés par les trafics. Deuxièmement, une urgence sanitaire pour que les médecins investissent ces quartiers qui sont qualifiés de déserts médicaux. Et puis, une urgence éducative et sociale où Emmanuel Macron insiste encore actuellement sur l'état de délabrement de ces écoles marseillaises. Une compétence de la mairie à la base, oui, mais il y a sur ce dossier une urgence vraiment pour que l'État intervienne. Écoutez.
Mais en même temps, je n'ai pas le droit de vous laisser perdre du temps parce que ce sont les enfants qui sont là, sinon, qui seront les premières victimes. Si je laisse Marseille se débrouiller tout seul, c'est simple, ces enfants vivront avec des écoles qui ne seront pas rénovées au bon rythme. Parce que vous avez eu l'honnêteté de me le dire, monsieur le maire, et parce que ce problème, soyons aussi honnêtes, il est bâtimentaire. La ville n'a pas assez de capacité d'investissement pour aller au bon rythme, mais il est aussi de fonctionnement. Parce que vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves.
Voilà, l'avertissement est très net d'Emmanuel Macron. Le président soumet son aide à des réformes locales. Les chicayas entre les politiques locaux ne doivent plus interférer. En résumé, Emmanuel Macron veut innover ici avec les méthodes qu'il présente et faire au final de Marseille un laboratoire de solutions inédites.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1.
Et plus tôt ce matin, Emmanuel Macron a eu droit à une question assez cash, assez directe de la part d'une jeune élève de primaire, Alexandre.
Et oui, les vraies questions sortent-elles de la bouche des enfants? Alors qu'il rencontrait une classe de CM2 en pleine rentrée dans une école primaire des quartiers nord de Marseille, eh bien c'est sur son salaire de président qu'Emmanuel Macron a été interrogé.
Combien vous gagnez d'argent?
Alors, je gagne, c'est public, hein. Je dois être payé comme président de la République avant le prélèvement à la source, 13 500, je crois. Les gens te diraient, en comparaison avec les ennuis et le secteur privé, que ça va pas, mais ça te paraît beaucoup. Et après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8 500 par mois.
Oui, la rémunération du président est en effet publique, 15 200 euros bruts mensuels qui correspondent donc aux 13 500 nets avancés par Emmanuel Macron avant prélèvement à la source.
En revanche, il y a une vidéo Instagram postée ce matin par Emmanuel Macron qui sème le trouble.
On y voit le président souhaiter la meilleure rentrée possible en temps de Covid, puis Emmanuel Macron présente à la caméra une photo des youtubeurs McFly et Carlito, auteurs d'une chanson sur les gestes barrières. Jouant la carte jeune, le chef de l'État choisit ainsi d'honorer un gage conclu avec le duo qui avait interrogé le président au printemps dernier. La vidéo est souriante, Jacques Serret, mais Emmanuel Macron conclut par une pensée aux proches de Samuel Paty. C'est cette rupture de ton donc, qui dérange dans l'opposition.
Oui, en moins de 2 minutes dans cette prise de parole diffusée sur les réseaux sociaux, le chef de l'État évoque d'abord McFly et Carlito.
Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito.
40 secondes plus tard, cadre avec les portraits des youtubeurs toujours en main, c'est le grand écart.
Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de de la nation, de notre pacte.
Emmanuel Macron s'était engagé à montrer les photos du duo de youtubeurs lors d'une prise de parole. Paris tenu, mais Paris choquant et faux pas pour une partie de l'opposition. Les mots manquent pour qualifier ce niveau d'indécence et d'irrespect, réagit Marine Le Pen. L'indécence à son paroxysme pour le LR Éric Ciotti. Confusion et déconnexion, juge de son côté la sénatrice LR Valérie Boyer. Ou comment le « en même temps » cher au chef de l'État a brouillé son message à quelques heures seulement de la présentation de son plan pour Marseille.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Les collégiens et lycéens sont incités à se faire vacciner en cette rentrée scolaire.
Et dans cette même vidéo Instagram, Emmanuel Macron encourage les 12-17 ans à franchir le pas. Seuls 3 adolescents sur 5 pour l'instant sont vaccinés. Frédéric Michel, vous vous êtes rendu au lycée Apollinaire à Nice où un centre de vaccination provisoire a été installé pour cette rentrée.
Donc là, je te laisse aller voir le médecin qui va se trouver là-bas.
Au lycée Guillaume Apollinaire, cet après-midi, pas de grande file d'attente. La vingtaine d'élèves candidats à la vaccination a répondu à un questionnaire de santé avant d'être testés.
Tu vas aller faire un petit test pour voir si tu n'as pas attrapé le Covid entre-temps.
Alice et Céliane ont sauté sur l'occasion.
Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou quoi, bah, c'est bien de pouvoir le faire maintenant. Moi, je l'ai fait parce que bah, comme ça, je peux faire un peu tout. Et comme ça, je peux aussi ne pas le donner à mes proches.
Pour suivre les cours, s'il y a un cas dans notre classe ou quoi, parce que sinon on retourne chez nous pendant une à deux semaines jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas si on n'est pas vacciné.
70 établissements niçois du premier degré au secondaire se sont vus proposer l'installation de centres de vaccination éphémères ou des créneaux dans les vaccinodromes proches. Christian Estrosi, le maire de Nice.
Nous l'assumons pleinement parce que la seule crainte qu'on peut avoir alors que nous sortons de la quatrième vague, c'est d'avoir une cinquième vague. Et d'où pourrait-elle venir? De la jeunesse qui est moins vaccinée que les autres générations. Voilà pourquoi c'est important de sensibiliser la jeunesse. Mais j'ai l'impression ici qu'elle s'est déjà auto-sensibilisée.
Dans la métropole niçoise, selon un dernier comptage, 63% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Pas de passe sanitaire à l'école pour cette rentrée, mais partout où il est exigé, son usage pourrait être prolongé. Emmanuel Macron n'exclut pas une extension du passe sanitaire au-delà du 15 novembre en cas de trop forte circulation du virus cet automne.
En primaire, Alexandre, les écoliers ne sont pas vaccinés. Les gestes barrières y sont d'autant plus importants.
Oui, direction le groupe scolaire La Mauricière à Paris, primaire et maternelle. Virginie Riva, vous avez suivi les jeunes élèves pour cette journée de rentrée, la deuxième en temps de Covid.
Une journée où les enfants ont surtout retrouvé leurs amis, le travail a un peu commencé et bien sûr le rappel du protocole après 2 mois passés souvent au grand air avec des élèves qui ont visiblement bien intégré les règles comme ce groupe d'amis en CM1.
La classe c'est bien mais on n'a pas 1 mètre de distance mais ça va tant qu'on garde le masque.
On nous a rappelé les règles et on nous entendait assez bien avec les masques.
Et le fait de ne pas voir le visage du prof?
Ça me dérange un petit peu.
Je me sens bien dans mon masque et j'aime pas l'enlever dans la cour au cas où.
Tu veux être prudente?
Oui.
Effectivement, dans la cour de récréation, les enfants, ce premier jour, ont continué à porter le masque. À l'école maternelle, juste derrière, là, les enfants sont sans masque et les parents les accompagnent jusque dans l'école aussi. Le directeur avait pris ses précautions.
En fait, on a l'habitude d'accueillir les petites sections en demi-groupe. Ça fait moins de personnes en même temps.
Et les parents étaient à l'intérieur aussi?
Alors, on a limité le temps de présence, ils avaient été prévenus. Tout s'est bien passé. Quelques petits pleurs, presque rien.
Voilà, et le point noir à l'école La Mauricière reste l'aération des classes, pas de capteur de CO2 et des fenêtres qui s'ouvrent très peu pour raison de sécurité.
Un reportage Virginie Riva. La France fait des bébés. Les naissances en France sont revenues cet été à leur niveau de 2020. 2120 naissances en moyenne par jour. Leur nombre avait plongé à la fin de l'année dernière, 9 mois exactement après le premier confinement.
Restez avec nous dans un instant. Nous serons à New York, paralysés par les inondations de la tempête Ida. Et puis il y a cette polémique à l'US Open. Le joueur grec Tsitsipas s'accorde de longues pauses aux toilettes en plein match. On appelle ça comment, Alexandre ?
On appelle ça le pipi gate, je crois.
Le pipi gate, on en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. L'ouragan Ida provoque des inondations meurtrières à New York.
New York frappée la nuit dernière par des pluies torrentielles, des inondations éclairs. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort dans la région. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est la première fois, Alexis, que des inondations d'une telle ampleur se produisent à New York.
Oui, on ne compte plus les caves et les sous-sols inondés. Aaron est concierge d'un immeuble à Manhattan. Il ramasse les branches tombées sur le trottoir. Ici, la fuite est arrivée au niveau du toit. La pluie est tombée si fortement que les canalisations se sont bouchées. L'eau est rentrée dans les appartements du haut et est descendue jusqu'en bas. C'était pire que l'ouragan samedi. C'était vraiment une sale tempête. Dorine habite au rez-de-chaussée, deux rues plus loin. Elle n'a rien pu faire quand l'eau est entrée par le sous-sol. C'est le pire qu'on ait eu, 6 à 8 cm d'eau. On n'avait jamais eu d'eau dans le sous-sol avant. C'était pas une inondation éclair, mais ça s'est accumulé tout au long de la soirée. Alors de gros dégâts sont recensés dans toute la métropole new-yorkaise. Le métro ne fonctionne toujours pas normalement. Plusieurs lignes sont à l'arrêt. À des centaines d'avions cloués au sol à Newark, dans le New Jersey. Dans cet état, des gens ont été retrouvés morts, coincés dans leurs appartements inondés. Pour Dorine, les tempêtes font de plus en plus de dégâts. C'est de pire en pire. Ces dernières années, on a eu de l'eau dans le plafond, le toit a été changé, mais on dirait que ça ne s'arrête jamais. Pour la deuxième fois en 15 jours, des records de pluie ont été battus à New York et les infrastructures de la métropole apparaissent dépassées face à des tempêtes toujours plus intenses.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Une bonne nouvelle pour les fans d'ABBA. Le groupe va présenter son nouvel album. C'est le premier en près de 40 ans d'existence.
Très bonne nouvelle, effectivement. On va parler un peu de tennis, mais pour parler des pauses toilettes des champions Tsitsipas qui font polémique à l'US Open, Alexandre.
Oui, trop souvent, Stefanos Tsitsipas s'éclipse en plein match pour aller se soulager. Ses pauses toilettes sont autorisées, mais elles se multiplient, elles s'éternisent, au point d'ailleurs de provoquer les sifflets du public de Flushing Meadows. Jean-François Pérez, ses toilettes break deviennent maintenant un toilette gate.
Pas contents les spectateurs de l'US Open, pas contents non plus les adversaires de Stefanos Tsitsipas. Le français Adrian Manarino n'est que le dernier sur la liste à fustiger les interminables pauses toilettes du grec. Il y a quelques jours, l'allemand Zverev avait eu des mots très durs contre le numéro 3 mondial.
Il part 10 minutes, on voit son père envoyer des textos, il revient et sa tactique change complètement. Il va dans un endroit magique où il en profite pour communiquer ? Il le fait vraiment trop souvent.
Au final, Zverev a tout de même gagné le tournoi, à la différence de l'ancien numéro 1 mondial, Andy Murray, battu en 5-7 par un Tsitsipas, multipliant les temps morts, les appels aux soigneurs et même un retour au vestiaire de 7 minutes. La poignée de main fut glaciale et le constat cinglant.
Je l'estime beaucoup, c'est un grand joueur et il fait du bien au tennis. Mais je n'ai plus envie de perdre du temps avec ça. Je n'ai plus aucun respect pour lui.
La main sur le cœur, Tsitsipas assure qu'il ne bafoue pas le règlement. Il a raison. En grand chelem, deux pauses par match sont autorisées, sans limitation de durée. Et le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, n'est pas le dernier à en profiter. Mais les critiques de plus en plus virulentes pourraient pousser les dirigeants du tennis à modifier le règlement sans tarder.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Un coup d'œil à la météo de cette fin de semaine, Marlène Duret. Le temps tourne à l'orage dans le sud.
Oui, les premiers orages, on les attend dans le Languedoc avant la mi-journée, en Corse également. Et puis des averses, comme ça, vont gagner progressivement une bonne moitié sud. Le risque orageux va se généraliser et se renforcer des Pyrénées au Massif central et aux Alpes. En remontant, on a une petite zone tampon, c'est-à-dire qu'un ciel assez changeant avec des éclaircies, quelques averses entre la Bourgogne-Franche-Comté, la Vendée et la Gironde. Et puis au nord de la Loire, quand on remonte vraiment sur le tiers nord du pays. Là, ça sera vraiment du très beau temps grâce à l'anticyclone qui s'est bien installé sur les îles britanniques. Ça fait bien quoi, deux semaines. Il fera très beau. Les températures seront assez homogènes avec 22 à 27 en général. Par exemple, 23 à Honfleur en Normandie. Ben, ce sera la même température à Cortes-sur-Ciel. Hein. Là, on est dans le sud-ouest. Il fera 25-26 degrés par exemple à Lille, Paris, Toulouse et Toulon. Vous voyez, c'est assez homogène. Et puis, je tiens à vous dire, allez, il me reste quelques secondes pour vous dire que à partir de dimanche et pour le début de semaine, on a de l'air chaud qui va remonter sur le pays. On attend une trentaine de degrés en région parisienne, en région centre, dans le Lyonnais, le Dauphiné, le Sud-Ouest. Donc ce sera encore l'été là, à partir de dimanche et pour ce début de semaine.
Chouette, merci beaucoup Marlène Duret. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Merci Alexandre Lemaire.